C'est simple. Si tu veux éviter les épiceries présentement, ben Chef Maison, c'est la solution. Au 438-872-9500, tu peux le rejoindre aussi sur sa page Facebook, Info Chef Maison. Puis oublie pas, le forfait familial, 5 jours à 75$. Chef Maison, la solution. Vous êtes là, vous autres. Bienvenue dans la Josette du Barbu, numéro 174. Je commence ça tout de suite avec des nouvelles du UFC, parce que j'en ai des intéressantes, puis ça peut intéresser tout le monde, même si t'es pas un amateur du UFC. Cyril Gane, ou Cyril Gane, tout dépendant, le champion intérimaire des poids lourds à la UFC, qui a donné son dernier combat contre Derek Lewis, qui devrait affronter le champion Francis Ngannou, un autre combattant originaire de l'Afrique, mais habitant maintenant en France, plus précisément à Paris. Originaire du Cameroun, je dis Afrique, là, c'est un continent, là, mais pour être plus précis, originaire du Cameroun, Francis Ngannou. Cyril Gane, donc, a révélé sur MMA Junkie, qui appartient à USA Today, a révélé le prix de sa bourse après tout ce qu'il a payé. Puis vous allez voir, c'est pas grand-chose. Donc, faut rappeler une chose. La bourse de Cyril Gane. C'était lors du UFC 264. Il faisait la finale de ce gala, de ce pay-per-view. Puis en faisant la finale, un combat très dangereux pour lui, il se battait contre Derek Lewis. Finalement, Cyril Gane, le Français, a totalement dominé la bête du Texas, Derek Lewis. Puis en plus, il y a eu le combat de la soirée, il y a eu une bourse additionnelle de 50 000 $, je crois. Mais bon, faut mettre ça en perspective. Le gars vient de gagner une ceinture intérimaire pour ce que ça vaut, là. Ben honnêtement, là, parce que Francis Ngannou, ça faisait trop longtemps qu'il ne s'était pas battu. Mais donc, le champion, Francis Ngannou, c'est-à-dire. Donc, il a gagné une ceinture intérimaire, du moins. Ça vaut des sous, ça. Il a battu Derek Lewis. Il a fait la finale d'un pay-per-view. Ça vaut des sous aussi. Ben, imagine-toi donc que sa bourse totale, avant de payer ses coachs, puis toute la patente, puis les impôts à Vegas, puis tout le kit, c'est de 355 000. 355 000. Bon, tu me diras, c'est pas rien. Mais en même temps, quand tu gagnes une ceinture par intérimaire, que tu es dans les meilleurs des poids lourds au UFC et au monde, par de surcroît, c'est pas beaucoup d'argent quand tu compares aux autres sports. Donc, 355 000. Une fois, là, écoutez bien ça, là, on n'a pas ces informations-là d'habitude, donc je trouvais intéressant de les transmettre. C'est quoi vraiment la paye d'un combattant? Donc, lui, il a fait, ce soir-là, c'est 355 000 avec les bonus de KO de la soirée, TKO de la soirée, combat de la soirée, etc. Avec tous ces bonus-là, il arrive avec un 350 000. Chose que je dois dire, par contre, on ne sait pas s'il y a eu un pourcentage sur les pay-per-view. Habituellement, les gars qui font la finale, ils ont des pourcentages sur le pay-per-view. Là, on ne le sait pas. Des pourcentages sur les ventes. Là, on ne le sait pas. Ce qu'on a comme information, c'est 355 000 clairs. C'est ça qu'on a. Une fois qu'il a payé ses coachs, une fois qu'il a payé les gars avec qui il s'est entraîné, ses chambres d'hôtel, qu'il a payé les impôts qu'il devait payer à Vegas, il lui reste dans les poches 188 000. C'est ça qui reste concrètement dans les poches. Quand il retourne à Paris, là, puis qu'il va aller mettre ça dans son compte en banque, c'est 188 000 piastres. C'est pas des millions, là. C'est 188 000 piastres. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, il faut remettre ça en perspective, là. 188 000, c'est pour un camp d'entraînement d'environ 3 mois. Lui, il va être combien de temps là, sans se battre Cyril Gané avant de se battre contre Francis Ngannou pour une unification de ces deux titres-là? Ça va être quand même assez long. Moi, je te dirais 6 mois. Donc, si on prend son camp de 3 mois plus 6 mois, fait qu'en 1 mois, il y a 188 000 piastres. Il faut remettre ça en perspective. Il n'est pas à plaindre. Là. Demain matin, là, il n'ira pas chercher des coupons pour faire de l'épicerie. Là. Je comprends ça. Mais en même temps, 188 000 pour une année de travail, c'est le salaire d'un dentiste. Là. C'est à peu près ça. Là. Sauf que lui, contrairement au dentiste, quand le dentiste fait... Le dentiste qui a des études, qui a étudié, qui travaille fort, mais le dentiste, quand il arrache des dents, il mange pas des coups de poing en même temps à sa tête. Il risque pas de faire une commotion cérébrale. Bref, tout ça pour dire que c'est intéressant que Cyril Gane, partage sa bourse clairement, qu'il partage clairement qu'est-ce qui lui reste à la fin de tout ça. Fait que je trouvais ça bien intéressant à vous partager. Par la suite... Je me suis réabonné, imagine-toi donc, au podcast des Denis Drolet, parce qu'on peut pas l'entendre gratuitement. C'est bien correct de s'abonner. Tu sais, les Denis Drolet, c'est quand même un produit. C'est quand même, ben oui, c'est un produit. C'est des artistes, mais c'est très niché quand même, là. C'est pas pour tout le monde. Puis encore plus le podcast. Mais là, hier, j'avais... Comme tu le sais, j'avais de la route à faire, j'avais des podcasts à enregistrer à Montréal. Et puis, hier, je décide pour la première fois d'écouter un de leurs épisodes en audio. Puis je tombe, là j'ai un peu de retard, je tombe sur l'épisode avec Tout en Kidou. Bon, au lieu de Tout en Camon, là, Tout en Kidou. pas écoutable. En audio, là, sache-le, là. Si tu t'abonnes au Patreon des Denis Drolet, écoute pas ça en audio, c'est pas écoutable. Puis, ben, là, ce que mes chums me faisaient remarquer hier, c'est que cet épisode-là, c'est vrai, ça va loin dans le deuxième, troisième, puis cinquième degré, là. Fait que c'est peut-être aussi que j'ai pogné un mauvais épisode pour l'écouter audio, là. Mais j'ai trouvé ça difficile à suivre. En audio. Puis là, je te parle pas du fait qu'il crie, parce qu'on ça, on est habitué, il crie tout le temps, gars. Fait que c'est bien correct. Sinon, ben, c'est toujours... C'est bon, c'est intéressant, c'est drôle, c'est... moi, ça me fait décrocher. En quelque part, là, j'écoute ça, j'aime ça parce que je décroche. Ouais, c'est pour ça que j'écoute ça. Ça me fait décrocher de mon quotidien. C'est une belle folie. Folie contrôlée. Intéressant. Intéressant comme podcast. Je sais pas combien de temps qu'ils vont pouvoir le faire de cette façon-là. Il y a des invités plus intéressants que d'autres. Tout en Kidou, moi, j'ai moins trippé. Mais comme je te dis, je l'ai écouté audio. Là, j'ai fini celui avec Marilyn Jonca. C'était correct, sans plus. Là, je parle des invités, évidemment, puis de l'interaction avec les Denis. Beaucoup aimé l'épisode avec Luc Boucher, là. C'est un bijou. C'est du bonbon. Ouais. l'épisode avec Luc Boucher, si t'as la chance d'écouter ça, là, tu vas adorer. Mais comme je te dis, les Denis de Relais, c'est vraiment niché. Mais moi, j'aime ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est, je te parlais, c'est ça, de Tout en Kidou, là. Et à ne pas écouter en audio, ça n'a pas de petit bon sens. Suggestion de podcast. Un gars qui fait des entrevues de fond. Le channel YouTube s'appelle Valuetainment, comme Entertainment, mais avec Value, tu sais. Valuetainment, c'est animé par Patrick Bette David, un ancien militaire, un collectionneur aussi. Un gars bien intéressant, un gars curieux. Hey, il a fait des entrevues sur son show. Tu iras voir là sur, sur YouTube. Tape Patrick Bette David ou Valuetainment. Ben là, tu vas le trouver, évidemment. Il a fait des entrevues avec l'ancien boss de la mafia à New York. Avec. Tu te souviens-tu à New York, Sammy The Bull? C'est un tueur à gages. J'ai fait une entrevue de fond avec lui. Fait des entrevues avec Ric Flair, Jock Wilco, David Goggins. Il va un peu partout. Il a fait des entrevues de fond avec des bodybuilders comme Dorian Yates. Lui-même, Patrick Bette David, fait du bodybuilding, s'entraîne. Donc, un gars bien, bien intéressant. Je sais qu'il y a des cartes recrues. Je te dis que c'est un collectionneur aussi. Il y a des cartes recrues de Wayne Gretzky. Un amoureux de la collection de cartes de sport. Il collectionne les cartes de basket, de football, de baseball, de hockey. C'est vraiment un geek de ce côté-là. Puis c'est un personnage aussi. T'sais. C'est un ancien militaire. Ça aide aussi. Je vais juste regarder voir combien j'ai fait de temps. Ouais. Peut-être qu'il va être moins long aujourd'hui, le podcast. J'en ai fait quand même 3 hier. Là. ouais, c'est ça. Je te conseille fortement, si t'aimes les entrevues de fond, avec toutes sortes de personnes, je l'écoute pas, je le regarde pas toujours, son émission, son podcast, mais je le regarde juste quand c'est des invités qui m'intéressent. Mais il y a un bon range d'invités, tu vois qu'il y a une bonne culture générale. Fait que quand l'animateur a une bonne culture générale, ça se sent. Puis ça se voit dans son choix d'invité. Puis moi, Patrick Bette David, il me parle beaucoup, même si c'est un militaire, c'est-tu drôle, hein? Parce que tu me regardes moins, là. J'ai pas le spirit d'un militaire, mais pas pantoute, là, tu sais. Mais lui, il m'intéresse bien, bien gros. Fait que si t'es le moindrement curieux, je pense que tu vas aimer ça, Valuetainment. Puis c'est de qualité, puis c'est bien fait, là. Puis c'est toujours bien enregistré, toujours un bon son. C'est un beau podcast. Tu sais, il s'en fait de la marde là, dans un podcast. Mais lui, c'est vraiment un beau podcast. Par la suite, pour finir, je vais te parler d'inspiration, cette drôle de bébite-là. Ouais. Je te dis ça parce que j'ai commencé à écrire mon deuxième livre. Excuse-moi. Qui va s'appeler Bazou. Bazou, c'est un personnage du Petit Canada. J'aimerais ça faire une vingtaine d'histoires sur lui, sur ses péripéties, ce qui est arrivé dans sa vie. Bazou est né en 1936. J'ai commencé à écrire, puis là, je suis complètement bloqué avec cette histoire-là. Puis là, je me demande... Tu sais, de ce temps-là, ben, et pas de ce temps-là, mais j'écris beaucoup. Pour le livre moins, pour le deuxième livre moins. J'écris beaucoup pour les webzines, pour des journaux, pour des blogs. J'aime bien ça, faire ça. Mais quand vient le temps de m'asseoir pour mon livre, on dirait que j'ai plus de jus. Et puis l'inspiration, c'est une drôle de patente. T'sais, ça marche pas avec l'horaire, ça marche pas avec si t'es fatigué ou non. Ça... Non, l'inspiration, c'est vraiment une drôle de patente. Puis, essaye pas de la forcer non plus, ça va être encore pire. Je pense pas qu'on peut la forcer. Mais c'est sûr que moi, en écrivant, quand je me... Pas je me force... Je dirais-tu je me force? Ouais, tu sais, quand je m'oblige à rester assis, des fois, je peux être une heure devant une page blanche, là. Mais on dirait que quand c'est le livre, je me mets une certaine pression que j'ai pas nulle part ailleurs dans mon écriture. J'écris un texte pour mon blog personnel, lebarbuteville.com. J'ai pas de pression, j'écris pour les webzines, les chroniques dans les journaux, j'ai aucune pression à faire ça, j'aime ça. Quelqu'un me commande un texte, aucune pression. Je le fais sans problème. Un texte pour la radio, j'ai pas de problème non plus. Mais quand vient le temps du livre, depuis un certain temps, ça me... T'sais, on dirait que je cherche à ce que chaque mot soit parfait, mais c'est pas ça mon écriture. T'sais? Fait que j'essaye... En même temps, je t'en parle, puis j'essaye de me comprendre dans tout ça. T'sais, d'en parler, ça m'aide à comprendre. Donc, c'est ça. J'ai commencé... nouvelle histoire avec Bazou, tu sais. J'aime le nom, j'aime l'idée du... tu sais, j'y vais avec des schèmes de référence qui sont bien à moi, là, qui font que j'ai pas de difficulté à écrire puis que je suis inspiré habituellement. Mais là, je cherche pourquoi j'ai de la misère à me... à trouver cette inspiration-là. Puis je te le dis, là, quand l'inspiration vient, on dirait que c'est comme une gastro. Tu sais, ça arrive d'une shot, là. Bon, mon image n'est pas très belle, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la seule image que j'avais en tête. C'est comme une gastro. L'inspiration, pour moi, de la façon que ça arrive, là. Je te donne un exemple. Le bonhomme 7 heures, j'ai écrit ça en une demi-heure. Mes meilleurs textes, c'est ceux que je réfléchis pas. C'est ceux que j'écris d'un jet. Ça, c'est pour moi, c'est mes meilleurs textes. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut retravailler le texte après, mais le principal du texte se retrouve là en un seul jet. Après, je vais peaufiner, là. Mais le principal est là. Ce qui fait que le texte marche est là. Pareil pour Fanfan Dédé et Géant Ferré, le texte qui m'a permis d'être dans les finalistes du grand concours Nouvelles littéraires à Radio-Canada. Ce texte-là, aussi, c'est écrit d'un jet. Après, j'ai peaufiné. Est-ce que je pourrais encore l'améliorer? Techniquement... Un texte, là, si on voudrait, là, pour moi, c'est jamais terminé. Dans mon optique à moi, là, d'auteur, là, il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand t'es un adolescent, une adolescente. À un moment donné, il faut que tu la laisses voler de ses propres ailes. Puis c'est pareil pour l'écriture. À un moment donné, un texte, là, t'as assez joué dedans, là, puis c'est assez. Moi, je joue pas trop dans mes textes par peur de... d'enlever l'essentiel, tu sais. Quand je réussis, quand je suis inspiré, que je lance ça d'un jet, j'enlève pas grand-chose parce que je sais que ça va être bon, parce que je connais mon processus de création. Puis ça, c'est une affaire, tu sais. Si toi, tu commences, là, peu importe ce que tu fais, là, de la sculpture, de la peinture, de l'écriture, tu sais, tu fais de l'art, tu crées. Ça, c'est une chose, pour moi, bien, bien importante, tu sais. Je parle au niveau de l'écrit. Moi, je jette rien, OK? Parce qu'il y a des fois, il y a des idées qui sont pas bonnes pour l'instant, mais qui peuvent l'être plus tard, tu sais. Je fais beaucoup de recyclage. Puis c'est important, ça, en écriture. Quand t'as écrit quelque chose... puis que tu sais que ça vient de toi, ça t'appartient, là. Puis c'est important que tu le maximises. En tout cas, moi, je fais ça, puis c'est bon pour moi, puis, tu sais, comme présentement, là, j'écris beaucoup là, dans les webzines, puis comme je te disais, j'ai des chroniques, puis Mais pour le livre, c'est fuck all, là, j'ai aucune inspiration. Ben, des fois, je me mets, tu sais, des fois, là, je vais me partir de la musique. Je vais prendre un verre de vin. Mais là, de ce temps-là, oui, c'est ça, j'ai oublié de te dire, en parlant d'inspiration. Tu sais, souvent, là, aux 2-3 jours, là, tu sais, je prenais ma petite bouteille de vin, ben là, non. C'est comme, on dirait, je suis tanné, là. Je suis revenu comme avant. Avant ma séparation, j'étais pas quelqu'un qui buvait beaucoup, là. Ça arrivait, mettons, un petit vendredi, ici, t'es là, on ouvrait une bouteille, c'était à la fin de la semaine, on avait travaillé fort. Tu sais, juste normal, là. Petite bouteille, puis j'allais même pas à la fin de la bouteille, là, tu comprends-tu? Là, je t'ai rendu une bouteille tout seul, il n'y avait pas de problème. Mais là, j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais je pense que je t'ai tanné de tout ça, puis ça m'empêchait de... Ça nuisait à ma création. On va dire, ça fait un bon 2 semaines, j'ai pas bu du vin. Hier, j'ai fait des tests de bière, mais c'était juste pour l'occasion d'un podcast, là. Sinon, j'aurais pas bu. Il était pas mauvaise, les bières, là, mais j'avais pas... pour moi, c'était pas... Les bières, t'as pas un highlight, là. Tu comprends-tu, là? C'est ça. Mais je suis content, là, de passer au-delà de ça, là, la crise de bouteille de vin aux 2 jours, là. Je suis vraiment content, puis je suis fier de moi, tu sais, puis... J'ai pas le goût de ça, puis j'ai pas le goût encore de ça aujourd'hui, puis je tiens à maintenir ça, m'en faire attention à ça, vraiment beaucoup. Pour moi, le danger, c'est quand je vais voir des amis, je suis en groupe, tu sais, je suis un gros buveur social, fait que pour moi, le danger, c'est quand il y a des amis... Hey, là, je vais me mettre à boire. J'aime ça. Quand je suis heureux et j'ai du plaisir, la bouteille de vin, là, elle rentre facilement. Là, moi, je bois pas dans le malheur en général. Je bois dans le plaisir. Mais c'est parce qu'à un moment donné, après une bouteille, c'est fini le plaisir. Là, tu tombes. Tu sais, juste d'avoir un petit. Juste d'être feeling, c'est cool. Mais quand tu tombes, t'es plus feeling et t'es sous, là, c'est. Plus le même plaisir, là. Il y en a plus de plaisir. Parce que tu sais que le lendemain, tu vas être hangover. C'est pas le fun. Là. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, à 47 ans, je suis tanné là-dessus aussi à être hangover, là. J'ai pas de fun avec ça. Puis comme je suis pas le genre de gars qui est capable de juste boire le vin blanc, j'aime beaucoup ça. Puis comme je suis pas le genre de gars qui est capable de boire juste un verre, ben, j'aime autant m'abstenir. Jusqu'au jour que je serai capable d'en prendre un verre, tu sais. C'est de même que je vois ça. Puis de moins en moins un fan de bière, de microbrasserie. Peut-être parce que j'en ai bu beaucoup jusqu'à m'écœurer, tu sais. J'aime encore ça. Comme hier, on a fait des dégustations, puis c'était super le fun, puis c'était vraiment agréable, là. Mais demain matin, là, remplir mon frigo de bière de micro, là, non, je pense pas. Non, comme l'autre jour, on était avec ma copine, j'étais chez Brewski dans le Vieux-Port de Montréal. Ça, c'était le fun, par contre. Tu sais, tu prends un petit verre, tu marches, tu le digères en marchant. Ça, j'ai trouvé ça bien, bien agréable. C'est plus genre dans ces circonstances-là que je prendrais un verre maintenant. Puis je vais choisir les circonstances. Je vais être intelligent là-dessus. Parce que moi, il faut savoir que mon père est alcoolique. Puis il a toujours combattu ça. Je veux dire, il a arrêté, il a recommencé, il a arrêté. Ça a été toute sa vie. Puis c'est encore sa vie. T'sais. Là, je ne sais pas si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. T'sais, vraiment longtemps. T'sais, moi, j'ai 47, lui, il a 77. Ça a été l'un des combats de sa vie à lui. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai jamais eu de problème d'alcool jusqu'à ma séparation. Bon, il y a un lien à faire entre, là. J'avais de la misère à la vivre, je te dirais, cette séparation-là. J'avais besoin des fois d'être engourdi. Mais tout ça est passé. une belle relation avec mon ex-conjointe, ça va bien avec les enfants. Je pense que tout s'est calmé, tout est revenu en place. Moi, je retrouve mes repères. Le condo m'aide beaucoup d'ailleurs. Vraiment content d'être ici, j'avais besoin de ça. Là, je retrouve mes repères puis je me sens bien.
Ouais.
Je me sens bien. Et je pense que éventuellement, pour le livre, je m'inquiète pas. Là, tu sais, l'inspiration va revenir. C'est une question de temps. Faut être patient. C'est ça l'inspiration. C'est pas tu punches pas une carte d'une shop. C'est pas de même ça fonctionne. Mais je vais essayer de moins me mettre de la pression sur. Il faut que chaque mot soit compté puis que ça soit bon puis que ça soit nécessaire. Tu sais, un E-E-T, là, jamais ça va t'apporter d'émotion. Là. Ça dépend comment il est placé, tu sais. Fait qu'il faut pas capoter avec ça. Je te dis ça, mais je me parle à moi-même en même temps. Hey, je t'étais dit que j'en ferais moins long, hein, mais en dehors 25 minutes de canet. Fait que ça va être pas mal, la Josette du Barbu, numéro 174 pour aujourd'hui. Puis je m'en vais te dire, comme je disais dans le temps, que je faisais du CB à chute, puis que mon surnom, c'était Red Lobster. Hey, tu connais la ritournelle. Poupout! Ciao! Tu veux du swag? T'es sérieux à propos de ta barbe? Tu veux une coupe de cheveux dans le vent? Ben j'ai le spot pour toi et tes enfants. Alex le Barbier. C'est facile, tu peux réserver en ligne alexlebarbier.ca ou tu peux appeler directement au 450-602-7022.